Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour mesdames, messieurs. Nous voilà donc réunis pour la toute dernière étape de ce petit tour dans le rituel. Alors, je me suis posé la question cette semaine de savoir s'il valait mieux donner un aperçu de ce qui clôturait définitivement le sacrifice, c'est-à-dire les actes rituels adressés au feu et aux eaux, ou bien à faire une récapitulation générale des quelques conclusions auxquelles nous avons pu arriver pendant cette session de cours. Alors, j'espère que cela vous conviendra, mais je me suis décidé pour la conclusion, pas pour la récapitulation générale, parce qu'il me semble qu'il y a tout de même beaucoup de faits qui ont émergé et qu'il serait peut-être bon de rassembler lors de cette dernière réunion. Alors, je vous rappellerai d'abord certains principes. Nous avons commencé ce cours en définissant une nouvelle perspective d'approche des textes de l'Avesta. Depuis maintenant une douzaine d'années, nous ne considérons plus que l'Avesta que nous possédons, livrée par un certain nombre de manuscrits édités par Geltner, est le débris d'une vaste littérature, le débris hasardeux d'une vaste littérature. Nous pensons au contraire qu'il s'agit de deux liturgies savamment organisées et organisées de façon concertée par un arrangeur. Il s'agit donc d'une liturgie qui a un sens. Et nous adopter cette conclusion, c'est se donner le devoir d'exhumer ce sens, ce que nous avons essayé de faire. Accessoirement, nous considérons aussi que cet arrangement, que cette compilation de textes dans le but de donner un récitatif à un grand rite standard est une entreprise ancienne. Ce n'est pas l'entreprise des temps sassanides, donc de notre millénaire. C'est une entreprise qui remonte beaucoup plus loin, certainement dans le premier millénaire avant l'ère commune, quoique je ne puisse pas donner une datation beaucoup plus précise. Avec toutefois un point de repère commode, mais approximatif, c'est que cette liturgie semble correspondre à l'entreprise d'élaboration d'un nouveau calendrier. Un calendrier qui donne au nom au mois et au jour le nom d'une divinité, du calendrier religieux, pour le dire comme ça, et qui doit, mais c'est une approximation, remonter au 5e siècle avant notre ère. Alors, le deuxième principe, c'est d'adopter aussi la perspective de l'arrangeur de cette collection. Pour lui, le texte que nous appelons le Yasna, que nous appelons le Yasna traditionnellement, c'est un titre qui ne se trouve nulle part, je vous le rappelle. Il a été proposé en 1833 par Eugène Burnouf, qui a supputé qu'il s'agissait de l'équivalent avestique du mot sanskrit yachnya, qui signifie sacrifice. Mais pour l'arrangeur de cette liturgie, ce texte s'appelle au pluriel Stauta Yesnia, les éloges sacrificiels. Et sur les 72 chapitres de ce que nous appelons le Yasna, les Stauta Yesnia sont extensibles. Ils n'ont pas de limite particulièrement précise. Ils vont, selon la tradition qui leur accorde, ancienne et interne à l'Avesta elle-même, qui leur accorde 33 chapitres, nous pouvons considérer que certainement, avec certitude, que ces 33 chapitres sont ceux qui vont du Yasna 27, peut-être partim, au Yasna 59, qui est la litanie conclusive. Dans tous les cas aussi, l'on fait suivre ce corpus dans l'Avesta lui-même, dans les énumérations de textes de l'Avesta lui-même, par un texte qui s'appelle la Dharma Afriti, dont nous avons parlé lors de la toute dernière leçon, et qui occupe donc le Yasna 60, auquel on peut ajouter le Yasna 61, qui semble en faire d'une certaine manière partie. Un peu plus tard, dans les traductions zoroastriennes médiévales, quand je dis médiévales dans ce cas-ci, c'est notre Moyen-Âge à nous, car le Moyen-Âge iranien ne correspond pas exactement. L'époque sassanide peut être considérée comme médiévale pour l'Iran, mais à date médiévale vue du point de vue occidental, on considérera que les Staouta Yesnia commencent avec le Yasna 14. Je vous ai fait remarquer que c'est une extension tout à fait logique et d'une certaine façon rationnelle, puisque le Yasna 14 a ceci de particulier que c'est à ce moment que les officiants sont officiellement habilités à s'adresser immédiatement au Dieu. Donc, le texte du Yasna ou celui des Staouta Yesnia, selon le compilateur, comporte un long préambule du Yasna 1 au Yasna 27, partim. Et il comporte un appendice plus bref, Yasna 62 à 72. Alors, une fois ces données formelles rappelées, si vous le voulez bien, nous allons envisager successivement chacune de nos conclusions. Bon, la première, si vous voulez bien, voici donc un premier tableau, celui que vous avez probablement reçu en entrant ici. La première conclusion, c'est que le cœur des Staouta Yesnia, qui correspond à ce que nous appelons, nous, sur la base de critères purement linguistiques, l'Avesta ancien, et qui va du Yasna 27-13 au Yasna 54-1, est censé, pour l'arrangeur du Yasna, raconter l'histoire du monde en ses quatre états. Je pourrais dire l'histoire du monde en ses quatre trimillénaires, mais vous savez que j'ai la prudence de ne pas le faire, parce que le chiffrage de la durée de ces états n'est pas suffisamment documenté. Mais il faut bien être conscient que très probablement cela correspond à la doctrine des trimillénaires. Enfin, la vision de l'histoire cosmique que l'arrangeur du Yasna s'est forgé correspond très certainement à la théorie des trimillénaires, dont on peut constater ainsi l'ancienneté. Alors, je vous rappelle que ces quatre états, il s'agit, pour premier état, du monde sous forme mentale, pour deuxième état, du monde matériel mais immobile, sans fonctionnement. Troisième état, le monde matériel en état de fonctionnement, dont la première époque, ce sera un trimillénaire, hein, va du premier homme, Gaio Martan, qui, vous l'avez encore constaté, je crois, la leçon dernière, inaugure la liste des sacrifiants humains, tout premier homme, et va donc de ce Gaia Martan à Zarathoustra, qui apportera dans le monde ce que l'on appelle la Daïna. Enfin, la quatrième étape est celle de ce monde matériel fonctionnant. Depuis le fait que Zarathoustra lui a apporté la Daïna jusqu'à la fin des temps. C'est donc l'époque où nous sommes censés nous situer. Alors, si nous pouvons voir ce que le texte même de l'Avesta, du Yasna, nous permet de percevoir de la représentation de cette histoire. Hein, avec le début de ce noyau de l'Avesta ancien, avec les trois strophes du Yasna 27, 13 à 15, sont censées raconter l'étincelle cosmogonique. Le Yasna 33-11 au Yasna 34, c'est-à-dire la phase finale de la première gatha, qui est la plus longue, commémore le sacrifice archétypique que le dieu Srausha, comme le tout premier Zautar en fonction, a rendu dans le monde matériel. Enfin, la phase finale du corpus gathique, le Yasna 51, avec la seconde récitation du Yasna Abtankaiti, le Yasna 53 et la formule finale 54.1 préfigurent le sacrifice ultime qui est rendu par le Saushant final, Saushant, homme vivant, matériel, fils lointainement posthume de Zarathoustra, et qui sera le dernier Zaoutar, puisque ensuite il sera mis fin au temps. Alors, quels sont les indices? J'ai longtemps hésité à parler de sources ou d'indices. J'aimerais bien trouver une formulation, je ne l'ai pas encore trouvée, vous m'en excuserez, une formulation qui permette d'évaluer le degré d'explicite ou d'implicite de chacune de ces sources. Mais nous allons les voir. Alors, la première source, elle est très explicite, pas, sur le fait que les trois formules introductrices du Yasna 27 racontent ce qui serait en sorte le Big Bang de la cosmogonie mazdéenne, nous est livré par le commentaire de type Bag. Il y a trois types de commentaires. Celui-là en est un type du Yasna 19 à 21. Chacun de ces chapitres commentant une de ces strophes liminaires. C'est un commentaire explicite, celui-là, on peut le savoir. N'est-ce pas ? C'est littéralement le commentaire nous dit cela. Hein ? Nous dit, en récitant le Yasna 27-13, Ahura Mazda a fait émerger la pensée et le pouvoir. En récitant le Yasna 27-14, il a pris conscience qu'il existait, alors que le monde matériel n'existait pas, un ordre du monde, Asha, hein, l'agencement du monde. Et enfin, en répandant à ces deux strophes une autre pensée, et répandant à ces deux strophes, qui porte le nom de Zarathoustra, a officiellement déclaré sa volonté de fonder le sacrifice. Ce sont donc les quatre principes fondamentaux de la cosmogonie, la pensée, le pouvoir, l'ordre du monde et le sacrifice. Alors, pour le deuxième point, Yasna 33.11 et le Yasna 34.13, il s'agit d'évocations textuelles. Vous voyez ici, c'est déjà beaucoup plus implicite, ça demande de notre part un plus grand degré interprétatif. L'herméneutique ici se fait beaucoup plus flou. Les strophes du Yasna 27, 1 à 12 évoquent l'ensemble du Yasna 33, 11 à 14 et la strophe finale 34, 15 dans le but apparent de commenter le rapport entre l'un de ses premiers principes cosmogoniques, le kshatra, et le fait d'écouter, ou bien les sonorités du rite. Et les sonorités du rite. Yasna 33.11, oui, le nom du kshatra, kshatramcha, il y a une particule de coordination parce que d'autres entités sont évoquées, et srauta moi, impératif, écoutez-moi, ô kshatra, écoute-moi. La strophe 33.14, l'ultime strophe du Yasna 33, coordonne directement Srausha, le dieu des sonorités du rite, et le principe de pouvoir, le kshatra. Ensuite, il y a bien sûr, dans l'ordre ici du parfaitement explicite, le Yasna 57, qui fait partie des Stavuta Yasna, raconte, c'est un récit, raconte le sacrifice archétypique dont le dieu Srausha a été le Zaoutar divin. C'est ici que nous trouvons les indices qui nous permettent de penser qu'il y a ici la commémoration du sacrifice archétypique. Quant à la préfiguration du sacrifice ultime par le Saoshian final, nous y viendrons dans le troisième tableau de récapitulation. Deuxième tableau de récapitulation, si vous voulez bien, c'est aussi cela vous rappellera aussi une partie de notre démarche. Voici, nous avons pu peut-être aussi procéder à une restitution. Elle est hypothétique. Ça me permettra, dans le tableau même, de faire l'économie des points d'interrogation. Mais c'est ici que notre conclusion, certainement, se heurte au plus grand nombre d'incertitudes. Donc, hypothèse, hein, il faut bien le garder à l'esprit. l'hypothèse des manipulations, sur lesquelles, je vous rappelle, nous ne savons rien. Le yasna est un texte. Il ne décrit aucune manipulation rituelle. Nous ne savons pas ce que les officiants font. Ils parlent. Ils disent ce qu'ils pensent du rite. Ils s'adressent aux dieux. Mais ce qu'ils font, nous ne le savons pas, quoiqu'il y ait une vaste palette de termes qui composent toute la sémantique du rituel. Alors, nous ne savons pas ce qui va se passer avant le Yasna 34. Nous avons fait l'hypothèse que l'immolation animale, l'immolation d'une victime animale, dont le prototype est une vache pleine, pourrait avoir lieu au Yasna 34. Le Yasna 34, dernier chapitre de la dernière gatha, puis avec le Yasna 35, nous entrons dans le texte en prose du Yasna Haptankaiti. Au Yasna 36, deuxième chapitre du Yasna Haptankaiti, ce serait le moment de l'offrande carnée dans le feu, c'est-à-dire qu'une portion à déterminer de la chair de l'animal sacrifié est déposée dans le feu afin de s'évaporer par la combustion chez les dieux, et à titre symbolique, puisque nous savons par ailleurs, par le récit des auteurs grecs et par un texte comme le Pour Zichnia, que l'offrande animale que l'on fait aux dieux est celle de l'âme et non celle de la chair. Mais le fumet des viandes, la fumée de la combustion représente de manière minimale cette offrande de l'âme. Donc elle aurait lieu durant le Yasna 36, qui est consacré au feu rituel, comme nous le savons. Alors, nous devons faire l'hypothèse que le sacrifice, comme en Inde d'ailleurs, est dupliqué. Il est dupliqué. Et qu'il pourrait se reproduire au Yasna 51, dans la phase finale, suivi de la seconde récitation du Yasna Haptankaiti, avec à nouveau la récitation donc, du Yasna 36. Ce serait le moment d'une nouvelle immolation et d'une nouvelle offrande carnée dans le feu. Alors, nous voyons bien par d'autres moments, ce que nous savons, c'est que entre le Yasna 34, qui est le moment de l'immolation, et le Yasna 58-59, c'est la durée de la combustion de l'offrande, et c'est le moment où, selon les indications que nous connaissons par les dispositions rituelles, la récitation se fait statique. Il n'y a plus aucun geste des officiants. Ils récitent purement et simplement le texte. Les manipulations rituelles, qui sont dans le rite moderne extrêmement ténues, hein, ce sont délier le barsman, ou bon, offrir du parfum dans le feu, etc. Ces gestes sont suspendus. La récitation statique dure jusqu'au Yasna 59, où les manipulations reprennent. Alors, paradoxalement, je l'ai indiqué malgré tout, c'est que le Yasna 34, comme tel, ce chapitre des Gatha, et le Yasna 35, premier chapitre du Yasna Haptankaiti, peuvent être définis tous les deux par un titre que nous pouvons leur donner, nous. Nous pouvons supputer que c'est une célébration de l'acte. À ce moment où l'on cesse d'agir, justement, où l'on cesse de faire les gestes, le texte est une célébration de l'acte dont le nom avestique est Shautana. Shautana, c'est le troisième comportement, le troisième stade du comportement, après la pensée et la parole, l'acte, Shautana. C'est le mot qui imprègne massivement le Yasna 34 et le Yasna 35 pareillement. Alors, quels sont ici nos indices? Quels sont les indices dont nous disposons? Eh bien, ce sont des indices un peu différents, partiellement du moins, puisque ce sont les dispositions rituelles que nous pouvons lire, heureusement, dans un texte appelé Nirangistan. En principe, le Nirangistan est un livre avestique. Il ne figure pas dans l'Ausgabe de Geltner. Il nous a été livré par des manuscrits indépendants. Mais d'ailleurs, c'est un texte qui est dans un état assez lamentable. Sa tradition manuscrite est très limitée et les fautes sont nombreuses. Il a maintenant une édition, une bonne édition, depuis, qui vient de s'achever l'an dernier par Cotwal et Crayenbrook. Et c'est un texte qui simplement donne un certain nombre de dispositions rituelles. Par exemple, en ce qui concerne l'immolation animale. Le Nirandistan est un de ces textes qui nous impose l'idée que le sacrifice avestique, contrairement à ce que l'on a voulu prétendre longtemps, pratiquait l'offrande animale, puisqu'il s'interroge sur les animaux qui peuvent être sacrifiés et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et c'est ce texte aussi, dans la traduction moyen perse, qui nous renseigne sur la combustion de l'offrande à tel moment, Yasna 34, Yasna 35, et puis sur aussi la durée de la récitation statique. Ce sont des indications rituelles propres au Nirandistan avestique ou moyen perse. Alors, nous avons bien sûr des indices internes à la liturgie elle-même. Ce sont les échos textuels que le Yasna 58, donc tout à la fin de l'opération, à l'époque de la fin de la combustion, ce sont ces échos qu'il renvoie au début de l'opération, c'est-à-dire au Yasna 34 et au Yasna 36. C'est ainsi un système de renvoi en écho qui est un phénomène que nous connaissons bien. Il y a aussi quelques possibilités d'identification sémantique. Elles sont hypothétiques. Est-ce que toutes ces choses dont nous sommes en train de parler ne sont pas désignées par un terme que nous pouvons identifier? Nous avons fait quelques hypothèses. Le Visperet 15, qui se situe à la jointure du Yasna 34 et du Yasna Abtenkaiti, du Yasna 35, ce Visperet 15 nous dit que c'est le moment où l'on va accomplir les bons travaux de pâture. Je vous rappelle que le nom des travaux de pâture, c'est Vastria. Et ceci me permet aussi de vous rappeler ici qu'une des sources de nos difficultés à traiter du problème de l'immolation animale est la pratique ici de l'euphémisme, qui pourrait être même le plus grave des euphémismes, c'est-à-dire l'euphémisme antiphrase. Dire très exactement le contraire de ce que l'on fait. Alors qu'il s'agit de tuer l'animal, bien, on fait les bons travaux de pâture. Qu'on doit lui rendre. C'est la source de nos difficultés, mais en même temps, si nous acceptons l'idée de l'euphémisme antiphrase, nous avons ici un indice sémantique formel. Alors, les autres identifications sémantiques, c'est le nom de l'offrande solide. Naturellement, offrande solide, c'est pas nécessairement l'offrande carnée. Ce mot de l'offrande solide, c'est le miasda. C'est le miasda. Une autre hypothèse que nous avons faite aussi, c'est que peut-être ce genre rituel que l'on appelle Neumar et que nous traduisons par hommage, c'est Namas en indien, l'hommage, est peut-être le terme qui désigne le fait d'offrir la viande à la divinité. C'est peut-être l'offrande carnée, Neumas elle-même. Les indices qui nous permettraient de sont faibles. Il faudra, je vous l'ai dit, les chercher patiemment dans l'Avesta ancien. Mais pour l'Avesta récent lui-même, nous avons tout de même une petite indication, une petite suggestion qui nous vient du Yasht 10, c'est que le Namas est une opération rituelle qui répand un parfum. Le Namas est quelque chose que les dieux perçoivent olfactivement. C'est peu, nous n'avons pas plus, mais nous avons cette indication. Voilà pour l'autre récapitulation. Troisième récapitulation que nous pouvons faire, nous avons cherché à démonter le mécanisme final du sacrifice. C'est ici que je vous venais en venir, le mécanisme final, donc celui qui préfigure l'ultime sacrifice du sauveur, entre guillemets, final, du Saoshien final, Asvat Urta. La première phase du mécanisme, c'est le déséquilibre du pouvoir, le Mokshatra, au bénéfice d'Ahura Mazda. le pouvoir d'Awa Mazda devient plus important que celui de son adversaire Angra. Ou plus exactement, pour avoir une image précise de ce qui se passe, c'est que le pouvoir d'Ahura Mazda sur ce qu'il a créé, lui, Ahura Mazda, et qui est bon, devient complet, total. Tandis que celui d'Angra Mainyu, sur ce que lui, Angra Mainyu, a créé et qui est mauvais, s'évapore, disparaît. Il perd le pouvoir sur ce qu'il a créé. Ce déséquilibre, c'est très exactement ça. En réalité, ça correspond à quelque chose que nous pouvons bien connaître dans la représentation de ce mécanisme, n'est-ce pas ? C'est que, à ce moment-là, c'est la fin du mélange. C'est la fin du mélange, puisque le monde en état de fonctionnement, le monde s'est mis à fonctionner lorsqu'un Gramainu a envahi la création d'Ahura Mazda, et c'est le mélange avec les créations du mal qui a produit le fonctionnement du monde. Si un Gramainu perd tout pouvoir sur ce qu'il a créé, le mélange s'évapore. L'état des choses redevient pur. Le monde redevient exclusivement bon. Donc, ce déséquilibre des pouvoirs est la première phase. La deuxième phase, c'est l'effondrement de l'obstacle, le brite l'obstacle, Vrtakna. Donc, ce qui s'opposait à un monde parfaitement bon et immortel disparaît. Troisième phase, cette disparition de l'obstacle permet à l'officiant du sacrifice de gagner le prix. Gagner le prix. Mijdam Han. Mijda, c'est le prix, le salaire, et Han, c'est la conquête, le verbe qui signifie conquérir, comme nous l'avons expliqué la fois dernière. Or, la quatrième phase, si vous voulez, c'est jouir pleinement de la nature du prix. Et cela, c'est clairement la résurrection des corps, la résurrection de la part mortelle de la personne humaine, sur son corps matériel, et l'immortalité. Ces deux termes, oui, je vais y venir. Alors, quels sont les indices textuels dont nous disposons pour conclure que le mécanisme final va ressembler à ça ? Eh bien, pour la première phase, le déséquilibre des pouvoirs, c'est la Dharma Afriti. C'est à la fin. C'est vraiment notre ultime, ce texte tampon entre l'Estauta Yesnia et la phase ultime, l'appendice du sacrifice qui nous l'apprend. Le yasna 60 est ce qu'on appelle une afriti, une propitiation, c'est-à-dire une formulation de souhait. Et le souhait que le chantre fait ici, ce n'est plus un souhait qui s'adresse à des hommes, c'est un souhait qui s'adresse au Dieu lui-même. Et ce souhait, c'est qu'Ahura Mazda ait le contrôle absolu sur ce qu'il a créé et que Angra Mainyu perde le sien. Alors, que cette propitiation signifie bien cela, renvoie à la disparition, au déséquilibre final des pouvoirs, est confirmé de manière explicite par un commentaire, c'est un commentaire d'un autre type, commentaire Varshtmansar, que nous a assez miraculeusement préservé un petit manuscrit de Copenhague et qui a été édité dans le courant du XIXe siècle par Westergaard, et que pour cela nous appelons le fragment Westergaard 4, et qui est un texte absolument explicite à cet égard. Alors, nous avons des indices internes, des indices que j'appellerais exégétiques, c'est que nous avons des traces d'une exégèse qui porterait sur les premiers mots du Yasna 51.1, l'avant-dernière gatha. Ses premiers mots, c'est Vohu Kshatram, le nom du pouvoir, le bon pouvoir, le pouvoir Vohu, le bon pouvoir, et les derniers mots du Yasna 53, l'ultime et dernière gatha, Kshatram Varyo, le meilleur pouvoir. Donc, des premiers mots de l'avant-dernière gatha au dernier de la dernière, l'on passe du bon au meilleur. Rien ne peut mieux exprimer le déséquilibre des pouvoirs que cette évolution de l'état neutre à l'état comparatif, ce qui est assez, ce qui est assez intéressant. Et alors, deux passages du secteur final d'Estauta Yesnia, semblent bien se préoccuper de cette idée qui serait apparente dans ce passage. C'est le Yasna 52.1, souvenez-vous-en. Et puis, finalement, le Yasna 59.30, qui lui aussi est fondé sur ce passage du neutre au comparatif. Alors, le deuxième phase, le brite l'obstacle, c'est un peu plus compliqué. D'une part, nous ne pouvons pas en douter. Nous ne pouvons pas en douter parce que le Visperet 21 nous le dit de manière absolument plate, explicite. Il nous dit, voilà, entre l'avant-dernière gatha et la dernière gatha, c'est le moment du Vertrakna. C'est le Vertrakna qui a lieu entre ces deux phases textuelles. Alors, nous repérons certaines choses aussi dans le texte ici de la Dharma Afriti, dans le Yasna, dans la litanie finale, le Yasna 59-28, c'est donc avant la Dharma Afriti, où le texte assimile comme un tout le caractère Vertrajan, du dieu Srausha, le dieu du sacrifice archétypique, le Zautar du sacrifice archétypique, le Saushyant final, qui porte lui aussi dans son nom cette caractéristique de Vertrajan, et le Saushyant en exercice, celui qui rend le sacrifice dans le présent. Ça, c'est le Yasna 59.8. Nous savons aussi, par le Yasna 59, que ce moment sacrificiel, celui où l'obstacle disparaît, a produit une allégorie divine qui est le dieu Vertrakna. Donc c'est l'abstraction, brite l'obstacle, est devenue une divinité. Ce qui pose des problèmes, mais j'en dirai peut-être un mot si à la fin de... nous avons encore le temps, la fin de ce cours, mais sinon nous aurons bien l'occasion un jour ou l'autre d'y revenir. Alors, le problème que pose c'est le problème exégétique devant lequel nous nous trouvons ici. Donc, nous avons un rapport tout à fait explicite, le Visperet 21. Nous avons des litanies terminales qui semblent bien, n'est-ce pas, reproduire cette idée. Je crois que nous ne pouvons guère en douter. Mais ce qui, ici, est problématique, c'est la base exégétique dans le texte de l'Avesta ancien. À partir de quel texte de l'Avesta ancien est-ce que les docteurs, n'est-ce pas, qui ont spéculé sur ces textes, où sont-ils allés chercher cette idée de briser l'obstacle ? Naturellement, ils possédaient des textes que nous ne possédons plus. Oui. Ce qui, d'une certaine façon, nous embarrasse notre réflexion. Cela, nous pouvons le poser comme tel. Mais pour ce qui est des textes que nous possédons, et qui sont, il ne faut pas l'oublier, les textes qu'ils se sont résolus finalement eux-mêmes à utiliser, et à ne plus utiliser que ceux-là, eh bien, dans ces textes, le caractère Vertrajan n'apparaît qu'une seule et malheureuse fois, et ce n'est pas dans un secteur critique. Yasna 33-14 ou Yasna 51-53 de l'Avesta ancien. Au contraire, c'est dans le secteur central. C'est une strophe du Yasna 44, c'est dans la strophe 44-16, mais qui présente la particularité d'attribuer cette qualité, très probablement, parce que nous ne pouvons pas en être aussi sûrs que Srausha, à l'abstraction Srausha. L'effort que l'on fait pour entendre. Ça semble être la base exégétique, mais voyez, elle est faible, il y a une seule attestation, et elle ne se situe pas dans le secteur critique du texte. Donc, c'est peut-être la petite difficulté sur laquelle je voulais, dans ce cas-ci, attirer votre attention. Alors, gagner le prix. Le fait de gagner, comme on gagne le prix d'une course de cheval, car c'est cela métaphoriquement, n'est-ce pas ? Nous en avons la preuve. C'est qu'il y a une autre manière de gagner que la racine han, conquérir. C'est le verbe za. Sémantiquement, c'est très intéressant. Je fais une petite récapitule plus ici, je fais une petite parenthèse, mais elle est très intéressante parce que nous voyons aussi comment fonctionne un peu la sémantique même du rituel. C'est un dos iranien, ce n'est pas une réalité seulement avestique. Verbeza veut dire abandonner, laisser derrière soi, quitter quelque chose. C'est le sens de base. Il peut même devenir un verbe extrêmement trivial. C'est la défécation. Mais aussi, c'est gagner. C'est gagner. Parce que, bien sûr, gagner, c'est laisser derrière soi. Et c'est cela qui nous montre que la base métaphorique de ce verbe, c'est la course. Donc, cette conquête de l'obstacle, il faut l'envisager figurativement comme une course. Quelles sont ici nos indications ? Eh bien, c'est la présence massive de ce terme « mijda », une fois avec le verbe « han », dans le secteur final, mais alors vraiment tout à la fin de la récitation gathique. Yasna 53.7. Ce mijda sera pour vous. At ve mijdem ankat. Et puis, tout à la fin du corpus, la formule conclusive du Yasna 54.1, la daina fera la conquête, anat, du prix précieux, du prix de choix, vairim. Et les textes ultérieurs se référeront à ces passages deux fois. Le Yasna 55.2, qui nous dit que le corpus gathique fournit un mijda important. Et enfin, le Yasna 59.30, qui nous dit que Zautar a fait la conquête de ce mijda. Cette expression, le Zautar a conquis le mijda, cela un peu conceptuellement, ce n'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas, la fonction des exhortations, des exclamations du sacrifice védique qui nous disent voilà, Hota a radi. Le Hota a réussi son coup. Il a réussi. Il est arrivé au but du sacrifice. Le sacrifice est réussi. Le Zautar a gagné le Mijda. C'est cela que cela signifie aussi. C'est exact. Ça correspond conceptuellement. Donc, ça, 59-30. Et alors là, ici, c'est une petite nouveauté, mais je voudrais. Nous n'en avons pas, nous n'avons fait qu'une allusion rapide, si je me souviens bien à cela. Y a-t-il un rapport entre cette phase finale, c'est-à-dire le mijda d'une part en trois, et d'autre part la nature du prix, la santé et l'immortalité, qui horvatat et amurtat, qui selon le Yasna 58.7 sont là. Récompense finale, la nature du prix en quelque sorte, santé, dit-on, santé et immortalité. Je proposerais mieux peut-être, ça bien sûr c'est l'immortalité, c'est le but final, c'est nec plus ultra de ce que l'on peut gagner, ça va de soi, c'est absolu. Hurvatat, je me demande si ce n'est pas. Littéralement, c'est la santé, oui, mais pas n'importe quelle santé. C'est le fait d'être complet. Vous n'avez perdu aucun membre, aucun organe. C'est le caractère complet du corps. N'oubliez pas que la résurrection vient d'avoir lieu. Est-ce que ce n'est pas une référence au retour à l'état complet, c'est-à-dire à l'état composé de corps et de pensée ? Peut-être que ça fait allusion à cela. C'est le retour à l'ambivalence humaine, l'homme qui est fait de mentalité, de manachia, il est mental, et qui est fait, d'autre part, d'os, comme dit, pour reprendre les termes avestiques eux-mêmes. Oui, mais ce fait d'être complet, cette personne complète, c'est pas celle qui présente les deux aspects à nouveau. Mais c'est donc, quel serait le rapport avec ce prix et la nature du prix du terme hachi. Vous savez que c'est une zone d'ombre. Je vous ai dit, nous ne voyons pas bien pourquoi hachi prend cette importance à ce moment-là du yasna, puisqu'on lui consacre spécifiquement à elle le Yasna, le Yasna 52. Elle est présente, c'est tout ce que nous pouvons dire. Elle est présente dans le secteur textuel, autour du Mijda, d'une certaine façon. Hein. À la fin, l'avant-dernière strophe du Yasna 51, donc avant le, tout juste avant le Brit, l'obstacle, tout juste avant, je demande, Yasa, la bonne Hachi. Je demande le bonheur, hein, pour traduire de manière significative et un peu au mépris des nuances. Et puis, finalement, tout de suite après, c'est les mestiches qui suit, le tout dernier de Yasna 54.1, à nouveau avec ce verbe je demande Hachim, qui dispense une forme de puissance qui est liche, donc dispensatrice de liche, pour donner une traduction au mot ishian. Alors, il y a quelque chose, mais que nous ne pouvons pas. L'état documentaire de nos textes ne nous permet pas d'être très précis pour le définir. Il est évident qu'il y a un rapport que nous percevons, sans pouvoir bien le définir, entre le terme Mijda et le terme Hachi. Ce n'est pas un hasard si toute la tradition scolaire sur l'Avesta, parfois au mépris des nuances, mais il fallait analyser peut-être dans le stade, je vais dire, élémentaire de la compréhension des textes, dans les premiers défrichements, les deux termes ont été ressentis comme synonymes et signifiant la récompense. Nous avons essayé d'être un peu plus précis en voyant quel est le mécanisme. Mais ce n'est pas un hasard et c'est assez normal. Le Mijda et l'Hachi ont quelque chose de synonymique. Bon, leur rapport exact, nous ne savons pas exactement. Alors, Hachi, ne l'oublions pas, c'est la dispensatrice des biens. C'est la déesse qui en renvoie, en quelque sorte, c'est l'aller-retour. Hein, l'on envoie chez les dieux les offrandes, mais en retour, n'est-ce pas, le char d'Hachi, chargé de bienfaits, tellement chargé qu'il laisse de profondes ornières, souvenez-vous des textes, vient vers l'ère sacrificielle distribuer les bienfaits des dieux. Et on pourrait peut-être percevoir parmi ces bienfaits le caractère complet du corps et son immortalité finale. C'est peut-être quelque chose qui... c'est une hypothèse simplement, mais ici encore, restez bien conscients que tout ceci est tout à fait hypothétique. Voilà pour la phase finale du sacrifice. Nous pourrions faire une quatrième récapitulation, parce que c'est aussi un processus que nous avons tenté de d'éclaircir. Ce sont les opérations de sortie du sacrifice. Elles nous ont fait attendre longtemps pour être complètes. On a perçu la première très vite, parce que suit immédiatement le Yasna 54. Au Yasna 55.1, le retour des officiants à la condition matérielle. Car entre le Yasna 11.10 et le Yasna 11.18, donc en quelques strophes, c'est un cours d'une autre année, il y a 2 ans, je pense, les officiants avaient procédé à leur auto-mutilation, à leur auto-immolation symbolique. Hein, en donnant leur corps à Hauma, en le buvant, c'est donner son corps aux dieux, et en offrant aux dieux leurs âmes mortelles. Ils s'étaient donc auto-immolés et s'étaient mis en situation de cadavre, hein, puisqu'ils sont réduits à leurs âmes immortelles. Nous l'avons vu. Eh bien, le Yasna 55.1, en faisant le catalogue justement du caractère complet de la personne humaine, avec tous ses aspects, aussi bien les matériels que les immatériels mortels et les immatériels immortels, on appelait les passages psychologiques de l'Avesta, on voit apparaître un homme complet. Hein. Les officiants reprennent pied dans le monde de la matière. Au Yasna 36, comme l'avait bien vu Narten, le sens profond du Yasna 36 aptahatique, donc préliminaire au sacrifice aptahatique, correspond à ce que Narten a reconnu comme la transsubstantiation du feu. C'est-à-dire que le feu sacrificiel, vu d'un point de vue strictement vieillavestique, le feu n'est probablement pas permanent, le feu a été allumé, c'est un feu banal, allumé de main d'homme, Et les prières qu'on lui adresse à ce moment-là, la demande que l'on lui fait, elle porte un nom, c'est le Yah, une demande spécifique que l'on adresse au feu et qui est la plus grande demande, dit le texte, le plus grand Yah. Ben, c'est de devenir la forme visible d'Ahura Mazda. Donc le feu cesse d'être le feu banal pour devenir la présence même des dieux au sacrifice. Le processus peut être défini comme transsubstantiation. Or, le Yasna 58, où l'on voit tous les dieux finalement se résorber dans le feu, procède au retour à la nature banale et triviale des choses, c'est-à-dire procède à la détransubstantiation du feu. C'est le Yasna 58. N'oubliez pas que c'est le moment stratégique du point de vue de l'immolation et de l'offrande carnée. C'est le moment où l'offrande achève sa combustion et où l'odeur probablement ne devient plus perceptible et où donc ce moment sacrificiel qui porte peut-être le nom de Neumar s'achève. Alors, j'ai mis Vispéret 3, oui, il est inséré entre le Yasna 11, 9 et 10, c'est l'investiture tout simplement des officiants, on leur offre leur charge sacrificielle. On peut considérer que la fonction sacrificielle des officiants s'achève avec le Yasna 59, 30, donc avec ce qui est pratiquement la dernière strophe de la litanie de clôture, où les officiants procèdent au transfert du Mijda. Transfert du Mijda, c'est ce Mijda que le Zaoutar a conquis pour lui-même, il le propose au commanditaire. Donc le commanditaire du sacrifice, qui a versé pour cela le salaire, qui porte d'ailleurs lui aussi le nom de Mijda, qui a donc payé d'un autre type de salaire, les officiants récoltent le bénéfice du sacrifice, le commanditaire, mais aussi bien sûr l'entité sociale qu'il représente. Voici, donc cela, c'est la... c'est là le système des rapports qui conduisent aux opérations de sortie du sacrifice. Avant d'en venir au cinquième et dernier tableau, je voudrais faire quelques petites remarques qui tiennent plutôt de la perspective que du bilan. Le fait d'avoir envisagé les textes comme un continuum pourvu de sens, ce que l'on n'a pas fait, ce qu'on ne fait que depuis 12 ans avec l'Avesta, nous a permis de jeter une lumière crue sur le sens technique de certaines notions. Ce n'est pas leur seul sens, parce que c'est le sens technique que ces notions présentent pour les commentateurs, les théologiens qui ont assemblé la liturgie du Yasna. Mais tout de même, nous percevons assez bien, assez clairement, ce qu'ils comprennent sous les mots, avec les mots kshatra. De quel pouvoir s'agit-il ? C'est du pouvoir du Créateur sur sa création, de pouvoir y faire sa volonté. Nous percevons bien ce qu'est un saushyant. C'est quelqu'un qui assure à la communauté humaine un certain bénéfice par la pratique du sacrifice. Et la personnalité du saushyant, c'est celle que l'officiant assume une fois qu'il a prononcé le fravarané. Nous en avons parlé. Nous voyons assez bien quel type de récompense est le mijda. Nous voyons fort bien son origine métaphorique dans la course. Et nous voyons bien aussi qu'il s'agit de la récompense finale qui clôture le sacrifice. Nous voyons aussi assez bien ce qu'est Vrtrakna. Il ne faut pas chercher des choses très générales dans le Vrtrakna. Le dieu Vrtrakna, c'est le moment décisif du sacrifice. C'est celui où la victoire devient possible. Il y a par contre des notions qui entrent dans un certain brouillard. Nous aurons à ce point de vue-là encore un peu de pain sur la planche avec elle. Par exemple, je vous avoue que depuis 3 ans que j'essaye avec vous de débrouiller le sens de la liturgie du Yasna, la notion de Daina s'est un peu embrouillée dans ma tête. Et il me semble que là, cette notion s'est, Certainement s'agit-il d'une âme immortelle, mais comment l'acquiert-on? Quelle est sa fonction exacte dans le processus sacrificiel? Il me semble qu'il y aurait là des choses qui devraient être examinées. Donc, comme toujours, lorsque un progrès ne va jamais sans une sorte de déprogrès, si je puis utiliser ce mot, n'est-ce pas, et une sorte de remise en cause de certaines de nos impressions de connaissances. Alors, ces notions que nous cherchons à appréhender, il y a parmi elles, d'une certaine manière, les allégories du Panthéon. Alors, nous avons vu l'an dernier le cas des Fravachis. Nous avons vu leur ancrage dans la terminologie sacrificielle, puis leur accession au rang d'allégorie, puis finalement de divinité. Il en va de même de Srausha, les sonorités du rite qui deviennent une sorte de garde, qui devient une sorte de gardien de l'univers. La déesse Ashi se départ en char pour apporter chez les dieux les offrandes des hommes et revenir avec les bienfaits des dieux pour les offrir aux hommes. Il en va de même. Ce sont des abstractions sacrificielles qui deviennent allégoriques et qui finalement deviennent des divinités. Lesquelles divinités s'entourent à ce moment de quelque chose qui n'a plus rien d'abstrait, mais qui devient au contraire extrêmement discursif et extrêmement narratif. Alors le cas de Vertrakna, ce sera autre chose, parce que Vertrakna a un passé. Hein. Le dieu Vertrahan, du côté védique, c'est Indra. Et l'obstacle, ce n'est pas un obstacle abstrait qu'il faut briser pour arriver à l'immortalité. C'est un exploit, cet obstacle est au contraire cosmogonique, il n'est pas à la fin des temps, il est au début. Et c'est quelque chose de très matériel, c'est un dragon, c'est un serpent. Et puis alors, il y aura des dieux fossiles, comme Apamnapat, le petit-fils des eaux, ou d'ailleurs, son cas pose peut-être un peu moins de problèmes de façon générale, dans le détail, oui, parce qu'au fond, on sent très bien que dans l'Avesta, c'est un dieu dont on n'a plus l'emploi. C'est en ce sens que je déclare que je le déclare dieu fossile. Alors, si vous voulez bien, nous allons maintenant venir au cinquième et dernier tableau récapitulatif. Il n'est peut-être pas tellement récapitulatif, mais c'est une conclusion générale que l'on pourrait apporter ici. Il y a 2 ans, lors de mon séminaire, Xavier Tremblay, dont le nom figure entre parenthèses ici, avait attiré notre attention sur le fait que, quoi qu'il s'agisse de 2 entreprises secondaires et indépendantes, le yasna avestique et le sacrifice brahmanique présentaient malgré tout une structure commune. Ce qui est étonnant, n'est-ce pas, car les 2 entreprises sont secondaires. Nous avons des textes avestiques, les textes vieux avestiques, dont nous ne connaissons pas bien l'antique usage rituel et que nous ne percevons qu'à l'intérieur d'un nouvel assemblage rituel, d'un nouvel usage rituel des vieux textes. Les gathas ou l'yasna aptankaiti sont des textes récupérés. C'est de la récupération et du recyclage à l'intérieur d'un autre rite. Il en va de même du côté indien. Dans le rite brahmanique, les hymnes du Rig Veda sont réutilisés de la même manière. Et nous ne savons pas plus l'utilisation originale qui était faite des hymnes du Rig Veda que nous ne connaissons l'usage primitif des gathas avestiques. Mais néanmoins, dans ces formations nouvelles, ces réutilisations des anciens rites, il reste quelque chose de commun, une structure. Nous avons les préliminaires. Les préliminaires, si vous voulez, dans le petit dessin que j'ai hasardé ici, le yasna 27 serait ici. Hein. Donc, dans le préliminaire est dominé comme manipulation par le pressurage de Hauma ou de Soma. Le Soma en Inde, le Hauma, c'est le même mot hein, en Iran. Ensuite, si l'on pense qu'ici, nous avons le yasna 59-60, nous avons le cœur d'Estauta Yesnia, où la manipulation centrale, c'est l'acmé du rite, ben c'est l'immolation animale. Alors, petite spécificité, mais c'est un détail du côté avestique, hein, ici il y a un petit secteur qui serait celui de la dharma afriti, c'est-à-dire la bénédiction finale, la propitiation finale des hommes et des dieux. Ben, après cela, nous avons un appendice, yasna 62 et yasna 72, qui consiste à... Non, pratiquement nous ne le savons pas non plus, mais a apporté certains gestes rituels destinés au feu et aux eaux. Cela, nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le temps lors de cette série de cours de l'envisager. Nous y reviendrons peut-être pas dans la perspective immédiatement du rite, mais nous y ferons allusion parce que il y a là un problème qui, je n'ai pas voulu l'aborder en une seule heure parce que ça pose un problème qui est nouveau aussi dans la philologie avestique, c'est le problème du culte des eaux dans le mazdéisme le plus ancien. Comment faut-il se représenter pour l'époque avestique le culte des eaux ? C'est un problème trop vaste pour être éliminé en une et probablement même en deux leçons. Alors, vous m'excuserez d'en avoir fait l'économie pendant cette série de cours. Il est un peu tôt, mais je m'arrête ici parce que c'est la dernière leçon. Alors, si vous avez une leçon, je sais qu'il n'est pas traditionnel dans les leçons du collège de demander si, après chaque leçon, s'il y a des questions, mais aujourd'hui, la dernière leçon, je vous en prie, si vous avez quelque chose à me demander. Merci. Oui, mais vous pouvez essayer de parler assez fort pour que l'on puisse...
J'en ai une à vous poser. Vous parlez de la récitation statique en absence de geste entre Yasna 34 et 58-59, mais vous dites qu'il y a immolation, donc il y a un geste.
Avant, oui. Oui. Le moment de l'immolation exacte, c'est le Yasna 34-4, en principe. D'accord. Et c'est après le Yasna 34-4 que les manipulations disparaissent, oui. Ah, est-ce que l'immolation a lieu sur l'aire sacrificielle ? En Inde, non. C'est hors de l'aire sacrificielle. C'est un prêtre particulier qui procède. Et d'après le Nirandistan, il en va certainement de même aussi dans le sacrifice avestique, c'est le Frabartar. Le Frabartar immole la victime, mais où ? Il est possible que le meurtre de l'animal soit considéré comme une souillure de l'ère sacrificielle. On a bien vu que toute cette idéologie du sacrifice sanglant est empreinte de tabous et de précautions.
Et le nom de Nirandistan signifie le pays de mensonges.
Nirandistan ? Non, Nirangistan, c'est le livre des Nirang. Il s'agit justement du nom que portent les dispositions sacrificielles. C'est les ordonnances sacrificielles, le livre des Nirang. C'est un titre moyen perse, n'est-ce pas ? C'est un titre moyen perse, ce n'est pas le titre avestique. Le titre avestique, nous n'avons pas, nous ne savons pas comment il pouvait s'appeler. Bien, merci de m'avoir accompagné cette année encore. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.